Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, le cinéma. Ce soir, Corinne Rondeau, Charlotte Garçon, Antoine Guillot sont autour de moi avec Lucille Comeau, bien sûr. À notre affiche, le teckel de Todd Solondz, moi, Daniel Black de Ken Loach et Tarang de Wang Bing. Vers 21h20, Lucille Comeau nous entraînera dans le petit salon et puis il y aura enfin l'émission des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition de Méliès à la 3D, la machine à cinéma. C'est une exposition à découvrir jusqu'au 29 janvier à la Cinémathèque française à Paris. Et nous ouvrons cette émission avec la Palme d'Or du Festival de Cannes 2016. Moi, Daniel Black de Ken Loach, qui sort demain sur les écrans français. Une palme accueillie avec pas mal de grincements du côté de certains critiques. Nous saurons à partir de demain ce qu'en pense le public. Le film suit le quotidien assez kafkaïen de Daniel Black, menuisier approchant la soixantaine, contraint de se mettre en congé maladie pour la première fois de sa vie, semble-t-il, suite à des problèmes cardiaques. Voici donc contraint aussi de faire appel à l'aide sociale, mais pour éventuellement y avoir droit, il doit rechercher activement un emploi qu'il ne pourrait par ailleurs pas prendre. Donc injonction paradoxale, mais qui est pourtant bel et bien celle en vigueur aujourd'hui au Royaume-Uni.
Good morning, Mr. Blake. I'm appointed to carry out assessments for employment and support allowance. Can you walk more than 50 meters?
Yes.
Can you raise either arm as if to put something in your top pocket?
Yes. Can I ask you a question? Are you medically qualified?
I've had a major heart attack.
I've been told by my doctor I'm not supposed to go back to work yet.
I'm afraid you must continue to look for work, or your benefit payments will be frozen.
There must be some mistake.
If you've been deemed fit for work, your only option is job seeker's allowance.
Well, I want to appeal.
You have to apply online, sir.
I was a carpenter. I've never been anywhere near a computer.
So you need to run the mouse up the screen.
No. Not now?
No, not like that.
I'm just going round in circles.
Look, I'm going to have to ask you to leave.
I'm trying to explain to you a situation and you don't care.
I've got about 12 quid in my purse.
Do you know what? You've created a scene, all right?
Jesus Christ!
What am I supposed to do?
Who's first in this queue?
I am.
Do you mind if this young lass signs on first?
No, you carry on. This isn't your concern. I want you to get out as well.
It's a monumental farce, isn't it? Looking for non-existent jobs. And all it does is humiliate me.
You've done nothing to be ashamed of.
You're alone with two kids.
You've done amazing.
I've seen it before. Good people. On the street. You could lose everything.
Well, I'm not going to give up. When you lose your self-respect, you're done for.
Encore une fois, une bande-annonce avec une musique qui, à mon souvenir, ne figure pas dans le film, qui est quand même très 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 dégoulinante. C'est le film de Ken Loach, moi, Daniel Black, qui sort demain. Bon, allons-y. Antoine Guillot.
Je faisais partie des critiques susmentionnées dans votre chapeau, Arnaud Laporte. J'ai effectivement été assez consterné de cette Palme d'Or à Cannes. Rappelons quand même qu'il y avait des films aussi importants que Elle de Paul Verhoeven, que Aquarius par exemple,
et tant d'autres.
Donc voilà. Alors, par ailleurs, moi qui...
Palmarès sont les palmarès.
Les palmarès sont les palmarès, mais c'est vrai que ça oblitère encore un peu plus le regard. Mais bon, ayant découvert le film avant le palmarès, je trouvais déjà que c'était sans doute un des plus mauvais Ken Loach depuis un bon bout de temps. Sans doute parce que ça fait 20 ans qu'il écrit ses films avec Paul Laverty et que le poids que semble prendre Paul Laverty dans cette aventure est de plus en plus énorme. Et en même temps, on a presque le sentiment par moment que Ken Loach s'absente de son film. On se demande s'il y a vraiment un réalisateur derrière la caméra pour filmer tout ça, et même pour aller contre un scénario qui est quand même sur des rails absolus, qui n'a peur de rien pour nous entraîner dans les tréfonds du mélodrame social. Donc cette scène que je continue à trouver vraiment mais honteuse, scandaleuse, de banque alimentaire où une jeune femme qui a tellement faim qui se prive de manger pour que ses enfants puissent manger, tout d'un coup n'en peut plus et donc se jette sur une boîte de soupe, je crois, ou d'haricots à la tomate, ou aller savoir quoi, et il va l'ouvrir et la manger frénétiquement en s'en mettant partout, sachant qu'il y avait une banane à côté qu'elle pouvait prendre et manger tout aussi rapidement et de manière un peu plus digne, je dirais. Et c'est une manière
pour moi...
C'est ça
qui vous scandalise, non, c'est juste pour savoir, hein, c'est pas parce que qu'il n'y a pas de rationalité dans un geste comme celui-là.
Non, moi, ce qui me scandalise, c'est que ce soit écrit pour l'avilir encore plus, si vous voulez, pour montrer, alors, et déjà, on en a eu pas mal, hein, sur les difficultés sociales de cette femme. Après, il y a des problèmes de scénario, du genre, pour faire avancer l'intrigue, on va trouver une lettre par terre qui explique tout, etc. Je trouve ça un peu feignant comme scénario, mais bon, pourquoi pas, après, ça ne serait que mauvais. Moi, ce qui m'ennuie beaucoup dans le film, qui, encore une fois, politiquement, je trouve très important, effectivement, de montrer les dérives d'un système qui est censé aider les pauvres et qui, en fait, est là pour les chasser, histoire de faire des bonnes statistiques. Donc, on confie ça à des entreprises privées, on joue beaucoup sur le fait que tout le monde n'a pas accès à Internet, n'a pas accès aux outils informatiques, et même ne sait pas les utiliser, donc ça permet aussi d'évacuer un certain nombre de personnes. Tout ça a déjà été décrit de manière sociologique très bien. Le problème, c'est comment est-ce qu'on le raconte? Et de le raconter avec ce qui s'apparente à une sorte de vie de saint, un calvaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment exceptionnellement bon, une bonne patte, univoque, comme ça, toujours le cœur sur la main, et pour un cardiaque, évidemment, on peut faire toutes les analogies qu'on veut, toujours prêt à aider tout le monde, puis qui vraiment n'y arrive pas, et puis le scénario va jusqu'au bout de sa logique, qui est qu'on a prévu depuis longtemps, moi, ne m'apporte rien. C'est-à-dire que je ne vois pas d'humanité là-dedans. Je vois juste un personnage construit pour nous faire pleurer, mais complètement hors sol, hors réalité, pour un cinéma qui se veut extrêmement naturaliste et en prise avec la réalité. Donc, je n'arrive pas à croire à ce personnage tellement parfait.
Charlotte Garçon.
Oui, c'est du réalisme socialiste, en fait. C'est vrai que moi aussi, j'ai remarqué la récurrence du cœur. Alors, cœur, évidemment, parce qu'il est cardiaque. Mais on l'entendait, je crois, au début dans la bande-annonce, au début, avec la travailleuse sociale. Il dit, est-ce qu'on peut parler de mon cœur? Et là, je me suis dit, ah là, attention, c'était au tout début du film, avant même qu'on voit les premières images. Et effectivement, si on écoute, on entend plusieurs fois la question du cœur. À un moment, cette jeune mère, dont il va devenir l'ami, lui dit, ah, mais si tu regardes dans mon cœur, je m'effondre, enfin bon. Et on voit bien qu'il y a une sorte de chantage au cœur dans le film qui est d'autant plus problématique que effectivement moi je n'ai vu qu'un programme. Je n'ai vu dans sa sécheresse et dans sa violence, c'est pour ça que j'ai eu l'impression que les personnages avaient une sorte de double peine. C'est-à-dire que certes ce sont des victimes du système et on l'a vu, on l'a dit, c'est documenté, ça se base sur de la documentation sur la réalité aujourd'hui des politiques sociales en Angleterre, mais il y a une sorte de recondamnation par la dramaturgie du film. Et c'est là où, pour soi-disant donner de la dignité à des personnages, en fait, on leur en enlève, justement, pour écrire des personnages de victimes. Donc, il y a une sorte de paradoxe, là, où moi, j'ai eu l'impression qu'au lieu de chercher une forme de libération... Alors, libération, ça voudrait pas dire que des personnages seraient soudain moins pauvres ou moins cardiaques, ou etc. Ce serait chercher, en tant que... ce serait chercher ou moins vieux, ou moins... comment on appelle ça, techno-freak, moins... plus cultivé par rapport à l'usage des ordinateurs. Non, ça voudrait dire en tant que cinéaste, justement en tant que metteur en scène, chercher dans chaque plan, chaque séquence, comment des petits points comme ça de bascule pour trouver une forme de libération de cette oppression-là. Donc pour moi, c'est quand même la vocation de l'art, et singulièrement du cinéma, de chercher toujours cette façon dont le film, lui, peut chercher un chemin de liberté, frayer créer un chemin de liberté pour le personnage. Et c'est pour ça que j'ai repensé à La fille inconnue des frères Dardenne, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, et où c'est aussi un des films à programme. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah oui, ils font pareil, elle va encore, etc. Donc on voit une sorte de sécheresse, et on se dit... Et en réalité, quand on pense aux deux, il y a quand même une différence, à mon avis, c'est que les frères Dardenne, certains disent toujours le schéma de rédemption, peut-être, mais en tout cas, ils cherchent dans la mise en scène, par la mise en scène, des ouvertures. Ils cherchent à trouer quelque chose. Et là, je n'ai effectivement pas vu ce chemin qui chercherait à se frayer. Je n'ai vu que l'application d'un programme, au point donc, de, paradoxalement, d'enfermer à double tour le personnage. C'est très étrange quand même. C'est une grande violence, finalement.
Corinne Rondeau, sur Ken Loach.
Moi, je reviens qu'il n'y ait pas eu de film de science-fiction, cette émission. Je pense à ça, parce qu'effectivement, je trouve qu'on voit beaucoup, beaucoup de films sur la dimension sociale de l'Occident, finalement, mais aussi des migrants. Je trouve qu'il y a une concentration de ces sujets, bon, parce que c'est le monde contemporain tel qu'il est. Le problème, c'est que le cinéma ne relève absolument pas, je dirais, son art à l'intérieur de ses formes sociologiques. C'est-à-dire, en quoi, effectivement, au-delà même d'une mise en scène, on peut faire autre chose que chaque fois de devoir enfoncer un clou. Le film de Kate Loach, j'aurais préféré une heure et demie ou deux heures, je ne sais plus combien dure le film, de voir Menuisier planter un clou jusqu'au mur pendant deux heures, j'aurais crié « Oh, vive la performance !» Là, si vous voulez, c'était insupportable de voir cette facture de l'héroïsme du pauvre dont dès les 10 premières minutes, on sait comment ça va finir et donc on va être obligé de voir tous les ressorts, tout ce que vous avez dit, qui sont aussi des lieux communs. Je veux dire, il y a des gens qui sont dans cette situation, qui ne savent pas manipuler l'informatique, et c'est kafkaïen, etc., etc. Le problème, c'est qu'à force de chaque fois dénoncer, exposer, démontrer, tirer à gros traits et à boulets rouges, sur le cinéma lui-même s'engloutit. Je veux dire, dans l'incapacité à inventer, Charlotte a utilisé un mot d'issue, a cherché à trouer la mise en scène en parlant des frères Dardenne, un film que j'ai pas apprécié notamment, justement parce que je trouve que il y avait un échec là-dessus. Mais là, le film de Ken Loach, c'est un mur, et on y tire au bazooka. D'ailleurs, le mur, il a sa fonction à la fin du film parce que il faut crier plus fort. Mais évidemment, je dirais que les metteurs en scène pourraient se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un cri qu'on n'entend pas? Il y en a des cris. Il n'y a que des cris dans le monde contemporain. Je veux dire, si c'est pour chaque fois nous tirer le tableau parfaitement, et alors avec Ken Loach, on a vraiment une sorte de classicisme du socialisme, Charlotte a dit...
Réalisme
social. C'est ça, drôle. Je veux dire, à un moment donné, c'est la droiture, vous parliez de sainteté aussi, et de calvaire, Antoine, mais la droiture, l'honnêteté, la solidarité, ce sont tous les articles contre... la dimension kafkaïenne des politiques sociales, mais aussi la politique en tant que telle. Je dis, à un moment donné, vous ne pouvez faire un film que sur une forme de conflit. Et c'est toujours la question du pot de terre. Comme le pot de fer est dans une situation telle qu'on la connaît, telle qu'elle est filmée aujourd'hui, de manière majoritaire, c'est toujours évidemment le pauvre pot de terre. Et on se dit, si on n'a pas de capacité d'invention dans la société, le cinéma est en train de nous le dire. On n'invente rien. Et moi, j'aimerais quand même voir des films qui traitent de ces sujets, parce que c'est aussi le monde dans lequel je vis. C'est ce que nous voyons tous les jours dans la rue et à chaque coin de rue. Donc je crois qu'à un moment donné, il faudrait que les gens se lèvent pour faire du cinéma et pas de chercher à coller systématiquement à ces travers. Parce qu'ils cherchent en fait quoi? Ils cherchent quasiment presque une visibilité, à contrario de celle de ce pouvoir magnanime d'une politique aberrante, absurde, et qui est en train de dévitaliser tout l'Occident, je dirais. Donc moi, je suis pas évidemment contre le fait de faire ces films, enfin de traiter de ces sujets-là. Mais je veux dire, on a parlé des migrants il y a 15 jours, Foucault Amare. Voilà, c'est un film qui a du sens.
On va en parler tout à l'heure.
On va encore en parler. Il y a des réalisateurs qui, quand même, prennent le risque de quelque chose d'autre.
Bien sûr.
Là, je dois dire que non seulement c'est inconcevable qu'il ait eu la Palme d'Or, mais je veux dire, il y a un moment donné, il faudrait qu'on lui dise d'arrêter de faire des films.
Il le dit lui-même, mais...
Oui, mais bon, il l'a refait.
Il se parjure.
Charlotte Garçon.
Ce n'est peut-être pas un hasard si vous citez Fuoco Amare, donc un documentaire, Corinne Rondeau, parce que moi j'ai pensé à, évidemment à Frédéric Wiseman et à Welfare, donc son chef-d'œuvre de 75 sur des bureaux d'aide sociale à New York. Et qu'est-ce qu'on y voit c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui regarde le système. Au lieu de dire je vous montre l'individu et je ne me tiens que du côté de cet individu et j'en fais un personnage absolument adorable et donc vous êtes obligé d'être de ce côté, je vais effectivement me planter dans les bureaux et même si a priori ça va être ennuyeux, qu'est-ce que je découvre? Justement plein de surprises et plein de trouées qui manquent à ce film-ci, moi, Daniel Blake. Par exemple, le fait que les travailleurs sociaux sont aussi des pauvres en puissance, sont aussi des gens qui ont des sentiments, voire des colères, etc. Et du coup, la donne change parce que les rapports de force, schématiques, sont complètement pulvérisés par le documentaire. Et donc, je pense que là, aujourd'hui, il y a quelque chose du regard documentaire qui peut aller beaucoup plus loin que la fiction documentée, on pourrait dire. En tout cas, telle qu'ici, elle nous est proposée.
Non, mais et puis il y a des cinéastes quand même aujourd'hui, on en parle régulièrement, qui travaillent autrement cette question du présent et des cris qu'on n'entend pas de Jeff Nichols à bien d'autres, et sous toutes les formes possibles. On ne va pas s'amuser à faire des listes, mais tout dépend comment on regarde ce film-là. Moi, j'y adhérais, ce film de Ken Loach, il faut que j'amène une voix discordante, parce que je l'ai regardé pour ce qu'il est, c'est-à-dire c'est jamais caractérisé Ken Loach pour son talent de mise en scène, même dans ses grands films des années 70, c'est quand même pas ça qui nous reste. Moi, ce qui me reste chez lui, c'est les qualités d'interprétation. Moi, je suis très sensible. Je trouve qu'il y a une évidence du jeu qui n'est pas du naturalisme avec tout le sens péjoratif qu'on lui accole généralement. Moi, je pense qu'il y a une vraie... quelque chose qui touche au réel, qui, moi, me touche personnellement, m'impressionne, qui fait que j'adhère complètement et que je suis ces parcours-là. Et je pense que le problème, c'est de savoir comment on le regarde, et vous avez raison de le regarder en critique, puisque c'est ce que vous êtes, les uns et les autres. Mais il y a aussi une possibilité de toucher un plus grand nombre. Est-ce que les films ne sont pas là parfois aussi, et l'histoire du cinéma en est pleine, pour être édifiant, c'est-à-dire d'essayer de dire à beaucoup de gens quelque chose du réel contemporain? Je pense que Fuoco Amare, et j'ai pas regardé les dates, il est incomparablement un chef-d'œuvre par rapport à moi, Daniel Blake, et on peut en parler en même temps, mais on peut évidemment pas les comparer. J'espère que moi, Daniel Blake, peut toucher, sensibiliser des gens. C'est une fonction alors assez mineure, voire mal perçue, mal vue du cinéma, mais cette fonction-là, pour moi, je pense qu'elle existe quand même. Corinne Rondeau, ça ne vous plaît pas ce que je dis?
Non, parce que je pense que on fait partie d'un milieu qui est très protégé, et je pense que les gens connaissent la pauvreté. Et ils en ont vraiment... ils la vivent. Et je pense que...
Mais l'unification n'est pas forcément pour ceux qui la vivent, mais qui vont d'ailleurs quand même assez peu au cinéma, vu le coût des prix d'entrée. Ça peut toucher une classe moyenne, une classe supérieure, voire une classe dirigeante, à qui on met des choses sous le nez qui passe son temps à ne pas voir.
Fuoco Amare, et le DVD a été montré aux députés européens. Je ne vois pas ce que ça a changé sur le problème des migrants. Et je suis convaincue, de toute façon, l'art ne change pas la vie des gens. Ce qui change, ce qui devrait changer, c'est qu'à un moment donné, la politique ne soit pas confondue avec le pouvoir, ce qui est le problème de tous les États européens occidentaux. C'est-à-dire que dès qu'on confond le pouvoir et la politique, il ne reste rien en politique, puisque tout le monde veut du pouvoir.
Mais il ne faut pas confondre changer la vie et changer le regard.
Ça pose autre chose que de donner une palme d'or à un type pour essayer de sensibiliser les gens. Je veux dire, quand on a eu la loi du marché, ma mère m'a appelée, puisque ma mère vit dans ce milieu que dépeignait la loi du marché. Mm-hmm. Elle m'a dit, dis donc, ce film, il est fait pour les gens des arrondissements très riches à Paris, parce que nous, quand on y vit, on n'a pas besoin en plus de dépenser 10 euros pour aller voir ça. Et elle a raccroché. Donc, vous voyez, je veux dire, quand les gens, ils ont encore un petit peu d'argent pour aller voir des films, c'est pas les films qui les intéressent. Mais ils sont aussi très conscients de la société, des crises qu'il y a. Moi, je suis d'accord que... on a un gros problème, voilà.
On a un gros problème. Je préfère qu'il fasse 500 000 entrées plutôt que Merci Patron, si vous voulez. Je pense qu'il y a une probité ou une intégrité chez Ken Loach. Vous dites de lui qu'il ferme à double tour ses personnages ou qu'il les utilise, qu'il les avilie davantage. Moi, c'est pas ce que j'ai ressenti personnellement et c'est pas comme ça que je le vois. Je pense que quand François Ruffin fait ce succès dont on a parlé ici, moi, ça me dérange et je trouve ça très nauséeux. Je l'ai dit, je le redis. Je vois pas la même chose chez Ken Loach, par exemple. Antoine Guillot.
Mais encore une fois, je ne mets pas en doute une seule seconde la probité de Ken Loach.
Non, mais c'est bien de le dire.
À quel point il croit en son combat. Mais j'aimerais avoir la même foi que vous en la capacité du film à changer les choses. Il y a un journal qui a eu un mot assez méchant pour Ken Loach, mais qui n'est pas complètement faux, qui est de dire que c'est un cinéaste de gauche pour public de droite. Et quand.
C'est pas mal, mais c'est ce que je viens de dire,
en
fait.
Non, mais parce qu'à regarder les choses, effectivement, vous regardez la recension du film dans le Figaro, elle trouve formidable ce personnage de prolétaire tellement parfait, tellement gentil. Mais à partir du moment où on a un personnage tellement bon qu'il lui arrive des horreurs, tout le monde est d'accord que c'est horrible. Mais c'est d'abord parce qu'il est bon. C'est-à-dire que vous mettriez un personnage de prolétaire avec un sale caractère dégueulasse qui soit pas présentable, on lui dirait finalement il mérite bien ce qui lui arrive et avec exactement le même système. Donc c'est là que
pour
moi
ça que j'ai aimé Naked de Mike Lee. Mais je préfère.
Précisément,
c'est-à-dire
et même si on prend la question de la loi du marché, le personnage avec toutes les limites du film était quand même un peu plus ambivalent et était face à des choix moraux qui ne sont jamais ceux auxquels doit faire face le personnage de Daniel Baek dans le film. Donc vive la complexité et la simplicité, je le crains, n'amène rien à rien.
Jean Garçon, un dernier mot.
La complexité, ou alors inversement, il aurait pu enfoncer encore plus le clou, comme me semble-t-il, il avait fait en 94, je crois, avec Lady Bird, où c'était une sorte de film d'horreur sociale.
Absolument.
Et où là, on est presque dans la science-fiction, tellement il va loin dans la victimisation. Ici, on est presque en eau grise, puisque à la fois, il victimise à mort son personnage, et en même temps, il y a cette réaffirmation du titre, moi, Daniel Baek, qui ressemble à une lettre envoyée à la Sécu, ou qui ressemble aussi comme We the People de la Constitution américaine. Donc voilà, c'est entre les deux, et je trouve que cet entre-deux, finalement, est dommage.
Et encore une fois, dans It's a Free World, Ken Loach avait fait preuve justement de nuance en montrant un personnage qui naviguait en eau trouble en permanence pour s'en sortir en exploitant les autres.
Bon, allez voir par vous-même, auditrices et auditeurs. Demain sort Moi, Daniel Baek de Ken Loach.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous parlerons tout à l'heure des derniers films de Wong Bing et de Todd Solondz. Avant cela, nous suivons Lucille Como dans Le Petit Salon. Bonsoir, chère Lucille.
Bonsoir, Arnaud.
Ce soir, propagande, hors note propagande.
Oui, il y a quelques semaines est sorti aux États-Unis un film qui a fait grand bruit, moins d'ailleurs pour son contenu ou pour ce qu'on en a pensé que pour le contexte dans lequel il est sorti. Ce film, c'est The Birth of a Nation, la naissance d'une nation. Il porte presque le même titre que le film emblématique de D.W. Griffith. Et c'est un film sur la révolte d'un groupe d'esclaves en 1831. Un film réalisé par un cinéaste noir, Nate Parker, avec un casting essentiellement noir. Alors, premier élément de contexte. Le film sort au moment où, pour la deuxième année consécutive, on censure sur l'absence criante d'Afro-Américains aux Oscars et où le slogan « Black Lives Matter, les vies noires comptent » ressurgit indéfiniment à mesure que les violences racistes sévissent dans le pays. Deuxième salve médiatique, on révèle que le réalisateur Nate Parker a été accusé de viol pendant ses années d'études à l'université, des accusations dont il a été blanchi depuis mais qui font les choux gras de la presse. Pour être bien sûr que la qualité du film ne sera surtout pas en jeu pendant sa projection, s'ajoute à ces deux éléments de contexte, le grand tourbillon des élections américaines. Fin septembre, la compagnie de distribution Fox Searchlight et l'équipe du film décident de lancer une campagne d'inscription aux registres électoraux dans les salles de cinéma qui projettent The Birth of a Nation, afin d'inciter les spectateurs à aller voter au présidentiel. L'objectif est, selon un communiqué de Fox, d'inciter tout le monde à participer au cours de l'histoire américaine, invoquant notamment, et ce n'est pas anodin, l'amendement de 1965 à la Constitution américaine qui interdit les discriminations raciales dans le vote. L'idée est donc d'inciter la population américaine, et en particulier afro-américaine, qui vote moins, traditionnellement, à s'inscrire pour défendre ses droits après avoir regardé un film sur l'esclavage. Alors, quelle est la limite dans ce type de contexte entre le cinéma et le film de propagande ? Une autre affaire pose la question de l'implication des moyens cinématographiques dans la campagne. Elle vient d'éclater la semaine dernière à l'occasion de la sortie sur Netflix de 13th d'Ava DuVernay. Alors Ava DuVernay, c'est une réalisatrice qui a réalisé il y a quelques années Selma, qui était un film sur Martin Luther King. Et là, son nouveau film est un documentaire sur l'emprisonnement massif des Noirs américains aux États-Unis depuis l'abolition de l'esclavage. Le 13 octobre dernier, l'équipe du camp démocrate, donc de Hillary Clinton, a tweeté un montage d'extraits de son film, montrant un discours de Donald Trump regrettant le bon vieux temps, accolé à des images de brutalité policière pendant des manifestations noires dans les années 60. Aussitôt, Ava DuVernay s'est insurgée contre cette utilisation et a déclaré « Mon film n'est pas un film de propagande pour le camp démocrate ». Pas facile de sortir un documentaire sur la question noire fin octobre 2016, surtout quand on inclut dans la bande-annonce plusieurs images des deux candidats à la Maison Blanche.
On va pas pleurer donc, parce que cette sortie n'a rien, de, n'a rien d'étonnant à ce moment-là. Et ils se servent, du tremplin médiatique de cette campagne qui arrive dans ces derniers instants. D'ailleurs, tiens, on peut dire à nos auditrices et auditeurs que nous serons en direct, en public, ça qui change, mardi 8 novembre au soir à 21h au studio 106 de la maison de la radio. Il y aura une grande nuit américaine dans tout Radio France et les antennes de France Culture y participent bien sûr. Il y a peut-être d'autres surprises avant, on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, il y aura une dispute spéciale autour des quelques films américains traitant de politique. On a choisi Mid-Jando de Frank Capra, Primary de Robert, j'oublie son nom de famille, Drew. Et puis la mini-série HBO Show Me a Hero, qui était diffusée, je crois, l'été dernier sur HBO. Revenons, et on y reste, aux États-Unis. Notre spécialiste, Rachat Garçon, qui passe pas mal de temps outre-Atlantique.
Non, j'étais en train de réfléchir à est-ce que Ken Loach n'apprécierait pas cette idée de mettre des bureaux de vote dans les cinémas. C'est à la fois si surréaliste, mais ça nous rappelle l'importance du contexte quand on vote. Enfin, il y avait toute cette histoire des machines. Est-ce qu'on appuie bien sur le bon bouton aux États-Unis quand on vote? Il y a la question de est-ce que c'est pas le dimanche, le jour de l'élection aux États-Unis. Et donc,
on a déjà commencé à voter depuis un certain temps.
Pourquoi pas les mettre dans les fast-food? Enfin, c'est à la fois comique et je trouve intéressant comme discussion.
C'est une vieille pratique, excusez-moi cette incise, mais notamment dans les concerts de rock, et Frank Zappa s'en était fait une spécialité dans les années 80, et il y avait des bureaux d'inscription, et c'est pas des bureaux de vote, c'est des bureaux d'inscription. Sur les listes électorales, parce que la jeunesse américaine, comme la jeunesse occidentale en général, a peu tendance à s'inscrire sur les listes, se plaint beaucoup du gouvernement, mais on leur explique tout simplement que si vous trouvez que c'est pas bien, allez-y et votez, quoi.
Charlotte Garçon.
Mais quand même, lié à ça, il y a le fait qu'on a l'impression que les candidats aux États-Unis sont beaucoup plus réactifs, enfin liés à une sorte d'actualité culturelle, comme s'il y avait quelque chose de beaucoup moins poreux entre la culture, l'industrie. Alors peut-être c'est à cause de l'usage des réseaux sociaux, mais bon, ils sont aussi utilisés en France, mais on a l'impression qu'il y a une...
De beaucoup plus poreux.
Oui, beaucoup, pardon, ah, oui, ah de oui. beaucoup plus pour eux. Oui, on a l'impression que les gens réagissent tout de suite. Enfin, peut-être qu'il y a aussi des grosses équipes, de même qu'il y a des équipes de scénaristes pour les séries. Il y a tellement d'équipes de communicants derrière, mais du coup, ça écrit une sorte de série pour nous en continu.
Non, puis je pense que la question afro-américaine, elle est tellement importante dans cette campagne-là, et c'est tellement une question culturelle qui, justement, est parfaite à être représentée par le cinéma, que du coup, évidemment, on s'en empare de manière assez systématique, quoi.
Birth of Nation, on en parlera dans la dispute, le jour où ça sortira, ou enfin, plutôt la veille. Vous l'avez déjà vu, Antoine Guillot, vous faites la moue déjà.
Oui, je suis pas sûr que ça mérite beaucoup d'être inscrit à un programme de la dispute. Moi, j'aimerais bien beaucoup voir The 13th d'Ava DuVernay, dont j'ai lu plutôt des bons échos dedans, mais c'est intéressant que ces deux films sortent maintenant, et Ava DuVernay, on comprend qu'elle ne veuille pas être récupérée par la campagne démocrate, parce que dans son film, apparemment, elle est très sévère envers Bill Clinton et sur les propres lois qu'il a fait passer pour l'incarcération massive de la population afro-américaine, et le fait que le film de Nate Parker, donc Birth of a Nation, sorte maintenant est aussi pas étonnant et inquiétant, parce que le film, en fait, bon, évidemment, Nate Parker n'a pas le talent de Griffith, loin s'en faut, cinématographiquement parlant, c'est désastreux.
Mais il n'a pas les mêmes idées politiques non plus.
Et alors, oui, mais il le fait précisément en réponse à ce film-là, c'est-à-dire, rappelons pour ceux qui n'ont pas vu Birth of a Nation, le film de Griffith, il y a avait un certain éloge du Ku Klux Klan, montrant comment, heureusement, que le KKK était là pour pouvoir remettre les choses en place après la guerre de sécession. Bien. Alors le film de Nate Parker donc raconte cette révolte, mais prend comme héros un esclave qui est à la fois prédicateur et qui est joué par Nate Parker lui-même, donc avec un certain sens du narcissisme, on dira, et qui est montré comme une sorte de Jésus noir au début du 19e siècle, qui est utilisé en fait par les planteurs locaux pour calmer les populations d'esclaves, parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens de leur donner à manger, donc il faut leur faire comprendre que c'est dans la Bible et que c'est normal la soumission. Et puis au fur et à mesure, il va prendre conscience de tout ça et finir par se révolter et se transformer en une sorte de gourou religieux, entraînant ses troupes vers le désastre promis, mais en disant c'est pas grave, parce que de toute façon on va tous se faire massacrer, mais d'ici là on aura aussi massacré quelques dizaines de planteurs, et grâce à ça le peuple entier va finir par se soulever. Et il a une manière de relier ça avec les soldats noirs de la guerre de sécession, en disant ce sacrifice n'a pas été vain, et tout ça a fourni une conscience politique. Alors si on décale ça un peu dans le contexte d'exaspération actuelle bien compréhensible, et du mouvement Black Lives Matter, mais aussi des Noirs qui se sont mis à tirer sur des policiers blancs parce que ils n'en peuvent plus, et ils voient que ils se disent c'est peut-être par la lutte armée qu'on va y arriver. Donc on a les résurgences de l'esprit Black Panthers et Nation of Islam, et c'est comme ça qu'il faut prendre le titre. C'est Birth of Nation, c'est Birth of Nation of Islam. C'est-à-dire comment effectivement à partir de là une révolte va arriver. Il va y avoir des massacres parce que les Noirs en ont marre de se faire tirer dessus. Et le film est un appel, c'est très très étonnant, est un appel à la lutte armée en disant sacrifiez-vous, il en sortira toujours quelque chose. Et symptomatiquement, c'est assez inquiétant sur le devenir proche des États-Unis.
Sur la propagande, du coup, peut-être Corinne Rondeau, mais c'était étonnant ce montage quand même des équipes Clinton, d'aller chercher des extraits de Trump. Par un effet de montage collé à cette volonté de ségrégation, c'est une vieille histoire, le cinéma et la propagande. Enfin, il ne s'agit pas de faire un cours, quoi. Mais quand même.
Évidemment, enfin, parce que le cinéma a tout de suite été utilisé par toutes les dictatures possibles, puisqu'on voit bien que c'est un... c'est une pratique qui est de l'immédiateté. Enfin, on sait bien que l'image, aujourd'hui, est devenue une réalité, et peut-être même la réalité, donc... Ça l'était déjà avant, donc aujourd'hui... mais je suis inquiète de ce que vient de raconter quand même Antoine, parce que vous parlez de la révolte aux États-Unis là-bas, mais je crois qu'on n'en est pas loin, nous non plus. Donc, c'est la propagande, c'est difficile, parce que est-ce que toute image n'est pas un peu une propagande, à un moment donné, puisqu'on est aussi dans un registre de croyances extrêmement fort, les gars, des fictions aujourd'hui. Elles sont passées de l'autre côté, donc en fait, quand nous-mêmes discutons entre document et fiction, documentaire et fiction, je crois qu'on est complètement has-been, parce que le registre de l'image aujourd'hui sur la jeune génération, c'est vraiment ils sont totalement partie prenante de ce monde-là. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Et d'ailleurs, moi, je suis plutôt pas partisante, non pas de développer de la technologie dans l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur aussi, mais de faire le maximum sur la question de l'image, ce que font, par exemple, le BAL, par exemple. Il y a une plateforme numérique super qui est vraiment très intéressant parce qu'elle est en interrelation avec l'enseignement, les profs, les artistes, mais aussi des institutions. Et enfin, parce que la propagande, ça signifie que l'image en soi a une dimension politique et idéologique. Donc effectivement, l'image n'est pas à condamner, mais la question de l'image, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans notre monde contemporain, puisqu'elle est dominante, et d'ailleurs elle domine toutes les vies aujourd'hui. Enfin, pour ceux qui en plus sont sur des réseaux, on voit bien que c'est une mine... C'est pas un trésor, c'est une mine qui va péter à la tronche de tout le monde.
Je veux dire un mot.
Mais juste pour conclure par rapport à ce que disait Antoine, donc du film que moi je n'ai pas vu, c'est intéressant du coup cette initiative d'inciter au vote. C'est presque une redémocratisation à la sortie.
Mais ça va presque du message.
Mais du coup c'est peut-être une forme d'adoucissement du message. En tout cas voilà, lutte armée, je trouve ça intéressant. ce que vous racontez du film me donne plutôt envie d'aller le voir, parce que je m'attendais justement pas à une telle radicalité dans la représentation. Donc
il faut avaler beaucoup de sulpicianisme avec, malheureusement.
Oui,
Le deuxième film à notre affiche ce soir, qui continue effectivement à traiter du triste état de notre monde, c'est Taang de Wang Bing. J'attends toujours, je ne suis pas le seul, avec impatience, les films de ce cinéaste. Et en même temps, j'ai toujours quelques appréhensions à aller voir, parce que c'est quand même assez fort, l'effet que ça peut produire sur ces regardeurs. Les Taang du titre sont donc une minorité ethnique de Birmanie, qui sont retrouvés au début de l'année 2015 au cœur d'une guerre civile. Ancrée de façon lointaine déjà, mais enfin qui a entraîné l'exil de milliers d'entre eux vers la Chine. Wang Bing les a croisés par accident et a décidé de suivre leur quotidien. Des femmes, des enfants, des scènes intimes. On connaît ce cinéma de Wang Bing qui s'approche au plus près des gens. C'est encore une fois le cas avec Taang. Corinne Rondeau.
Alors oui, c'est un film assez surprenant qui pourrait, fatiguer plus d'un parce qu'il a un rythme très particulier. Et je dois dire que moi, je me suis laissée prendre par le rythme de ce film, même s'il y a des séquences qui sont plus longues. Mais ce qui est assez remarquable dans le film, c'est la manière dont le cadre, qui sont remarquables, les cadres et la durée des plans finissent par vous intégrer à cette réalité. Et ça, c'est une grande force du film. C'est la raison pour laquelle, même s'il fait plus de 2 heures, ou je ne sais plus même la durée qu'il fait, même si on peut avoir un temps de... Que s'y passe-t-il ? Ben, c'est exactement le temps quand on est auprès des gens, où il y a un temps où voilà, il décroche et puis on y revient. Mais c'est surtout qu'on a cette réalité complètement improbable. Alors, improbable au sens où voilà des gens qui sont déplacés entre la Chine et la Birmanie. Et on est informé des lieux dans lesquels on les retrouve. Par ailleurs, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est pas la géographie, c'est le fait que c'est un peuple qui n'arrête pas de marcher. Mais tout est à l'arrêt. Et là où on retrouve les gens, c'est quand ils se mettent à parler. C'est là que les durées s'exposent et dans lesquelles on rentre aussi avec des questions simples. Pourquoi ces gens qui sont épuisés, ça se voit dans leurs yeux, ne se couchent-ils pas, préfèrent-ils parler entre eux sur ceux qui ont disparu, sur la manière de se retrouver peut-être. Pourquoi y a-t-il des femmes et des enfants principalement? Puis on apprend, parce qu'ils ont des téléphones portables, que les hommes sont restés aux maisons avec les personnes les plus âgées qui ne pouvaient pas se déplacer. Et donc c'est tout un monde extrêmement calme, où les gens sont d'une très grande proximité. Ils n'ont pas à manger, ils se donnent à manger entre eux. Ils n'ont pas de quoi se retrouver, ils se retrouvent. Ils ont de quoi rire encore. Ils ont de quoi avoir de la légèreté et aussi de la gravité. C'est un monde à la fois calme de marcheurs, de ces marcheurs qui fuient un pouvoir invisible, qu'on va retrouver à la fin avec des bruits de bombardements. Et à l'arrêt, parce qu'il y a des plans improbables. Un type avec une machette et un parapluie, une femme en rose, une robe rose avec un chapeau, en haut d'une colline, tout le monde est assis, on attend quoi? Et une voix dit, les oiseaux sont terrorisés, mais eux restent. Donc tout ce film a une espèce d'étrangeté. Et je dois dire que la grande force de ce film, c'est notamment son milieu, une nuit, c'est la nuit, puisque le film bat il bat de cette nuit-là où il se parle avec ses visages et ses,
ces étincelles, enfin le, j'ai que le mot feu. En patois, les bégules du
un
feu,
peu de patois.
Un peu de patois, qui traversent les visages comme ça. Ils sont d'ici, ils sont plus de là. Et moi, j'ai trouvé que la grande force du film, c'est vraiment la durée dans laquelle ce n'est plus un documentaire. C'est quelqu'un qui a accepté d'être dans cet espace-là avec eux. Et ça arrive jusqu'au spectateur. Ça, c'est une grande force.
Charlotte Garçon, sur Taang, qui sort demain.
Oui, c'est vrai que c'est pas du tout une thématique que celle de la migration ou de l'exil. On est dedans avec la façon dont Wang Bing a de rendre toujours la matière, comme il la rendait dans À l'ouest des rails. On a l'impression que quelque chose était pulvérulent. Et justement une usine était en train de fermer et presque de tomber en poussière. Sauf qu'il filmait les choses en nous donnant cette impression par le grain même de ce qu'il filmait. Et là, on est aussi dedans. Alors justement, on est dedans sans être dans l'immersion. C'est quand même pas un documentaire d'immersion, et c'est ça qui crée, je pense, aussi cette étrangeté. C'est pas seulement les rythmes, le côté toujours quand même avec le cinéma de Wang Bing, l'impression que peut-être il y a quelque chose d'informe devant nous, et du coup on est un petit peu inquiet, c'est-à-dire qu'on se dit on va soi-même se liquéfier en fait dans ce qu'on est en train de voir. On n'arrive pas à distinguer qui est qui, on passe d'un groupe à l'autre. Mais je pense que tout cela prend forme, justement, et que nous accompagnons pas seulement les gens, mais nous accompagnons une forme qui est en train de naître. Et je pense donc que ce passage à la nuit et au récit, ce passage où les gens se mettent à raconter et où on comprend peut-être que faire une maison, enfin, comment dire, bâtir une sorte d'abri, c'est aussi par le langage qu'on va le bâtir.
C'est ça qui est formidable.
Voilà, en fait. Et ouais. Notamment avec cette scène où une vieille femme qui est couchée, qui est presque au bord de l'endormissement, voire quand même peut-être aussi de la mort, enfin tellement, voilà, on ne sait pas dans la situation de précarité, y compris physique et d'épuisement dans lequel les gens sont, elle est sourde et donc elle parle en langue des signes à sa fille, je crois que c'est sa fille, et en même temps il faut une bougie, parce que s'il n'y a pas la bougie,
les signes ne seront pas vus,
la conversation ne peut pas continuer, et en fait à chaque fois elle rallume un petit peu la bougie pour que ça continue, et on voit que c'est aussi un peu la démarche du regard de Wang Bing, c'est-à-dire de nous accompagner, y compris dans la précarité de son projet à lui. Parce que suivre des gens comme ça jusqu'au moment où on se fait à la limite tirer dessus, enfin on entend des sons très inquiétants hors champ, c'est faire un énorme, enfin c'est d'une énorme ambition en fait, à la fois cinématographique mais humaine. Et de se questionner sur qu'est-ce qui fait maison, qu'est-ce qui peut pas seulement protéger mais vraiment établir un lieu de l'intime. C'est pour ça que je pense que le film et ça nous donne une impression que tout le travail de Wang Bing va vers toujours reconstruire un individu, en fait. Ce qui, pour nous, alors que moi, Daniel Blake, c'est le type qui est d'emblée un individu et qui le réaffirme en disant contre le système. Et là, il vient tellement d'une autre culture qu'il faut vraiment construire l'individu. Et on le voit dans son film sur la folie, ou comment on est aliéné, mais comment il faut quand même se reconstruire, peut-être en aimant quelqu'un d'autre. Enfin, et là, c'est pareil. C'est quand même, l'enjeu est énorme. Est-ce que l'individu peut exister en tant qu'individu, quoi.
Antoine Guillot.
Oui, j'adhère à tout ce qui a été dit. Le rythme dont parlait Corinne Renaud, moi, c'est même la temporalité de cette manière, en passant d'un groupe à l'autre, de donner l'impression qu'on a suivi une journée entière avec cette lumière qui décline et qui va nous amener jusqu'à la nuit. J'ai beaucoup pensé à son film Feng Ming, une femme chinoise, où il avait filmé cette femme qui parlait et la lumière déclinait au fur et à mesure dans l'appartement jusqu'à ce qu'on soit complètement dans le noir. Et je suis aussi très touché par sa manière d'être dans le film de Wang Bing. Comme dans Les Trois Sœurs du Yunnan, où on l'entendait beaucoup souffler, parce qu'il filmait à 3500 mètres d'altitude et était tout le temps essoufflé, il y a toujours une façon de dire je suis là, même si je ne me montre pas, même si Wang Bing est toujours d'une grande humilité. Il remercie à la fin toutes ces personnes de l'avoir accueilli dans son film, d'avoir permis de montrer ces images, d'avoir partagé quelque chose avec lui. Et en même temps, il est là, et nous sommes là, parce qu'il montre qu'il est là par un regard d'une femme, par un regard d'enfant vers la caméra, et y compris dans cette manière que je trouve très belle de ne pas faire spectacle de la souffrance et de la misère et des moments où il y a un moment faut laisser ces personnes. Je pense notamment à cette femme qui parle au téléphone avec avec son mari resté, qui apprend manifestement des choses assez terribles et qui demande un peu d'espace, un peu d'intimité. Et il va la filmer de trois quarts d'eau. On va comprendre qu'elle pleure, mais ça ne sera jamais un spectacle. Une autre qui veut partir. Il a une manière de les accompagner qui est très belle, et vous verrez à la fin du film jusqu'où il les accompagne. Mais il y a comme une responsabilité. Je veux accompagner ces gens-là jusqu'à ce que je sache qu'ils sont peu, de manière précaire au moins, mais à l'abri. Et là, je peux partir. Et j'ai vu le film deux fois et j'ai été bouleversé vraiment la seconde fois, très étrangement, une fois que je n'avais plus à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait,
qui était qui,
et par la beauté, effectivement, de ces images en lumière naturelle ces clairs-obscurs, la nuit, c'est une image d'une beauté saisissante et qui fonctionne vraiment en diptyque, je pense, avec La Folie, qui est un univers d'hommes, un univers renfermé. Là, on est vraiment dans des histoires de femmes et d'enfants qui font comme les enfants, ils déconnent, ils sourient, ils pleurent et puis ils se font gronder par leurs parents, ce qui est aussi une manière de montrer que la vie est toujours là et que l'exil, les réfugiés sur les routes, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'attentes et c'est cette temporalité qui nous donne avec ces moments d'accélération brusque et toujours un peu inquiète où il faut agir et c'est comme tous les films de Wang Bing, des personnes qui n'ont pas la maîtrise de leur destin mais qui continuent à vivre à l'intérieur de ça.
Corinne Rondeau ?
Oui, vous avez raison, il y a une grande dignité, mais elle tient vraiment à ce que sont ces gens, plus que même aux caméramans, mais c'est un film d'errance, enfin il est dans l'errance avec eux. Et je veux juste revenir sur ce que disait Charlotte, parce que je trouve que c'est très juste, c'est que ce qui fait la maison des hommes aujourd'hui, c'est ce qu'ils peuvent raconter de leur vie. Et ça, c'est ce qui structure vraiment le cœur même du, pour reprendre un mot, pour le cœur même du film qui est cette nuit. Et je trouve que c'est vraiment très 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 fort la part de ce réalisateur, quoi. Mais voilà, ça c'est vraiment une force, quoi.
Bon, là, je signe tout ce que vous avez dit, les uns les autres, je n'ai pas à rajouter. Lucille Comeau, quelques mots sur Taang?
Quelques mots pour dire que j'ai aussi trouvé que c'était un très beau film, que j'ai trouvé dur, moi, pour le coup, vraiment dur, un spectacle difficile au moment du démantèlement de la jungle de Calais. On peut pas s'empêcher de penser à ce que c'est qu'un camp de réfugiés aussi. Il y a toute cette matérialité des gens et des camps, oui, tout à fait. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir ça maintenant. Et quelque chose qui essentialise l'idée même de l'exil, et que du coup, on s'en fiche un petit peu au final de qui sont ces gens, de quelle ethnie ils viennent, s'ils sont en Chine ou plus en Chine ou en Birmanie. C'est l'exil vraiment nu, donné comme ça sur l'image, c'est très beau.
Bon, bah je signe aussi, puisque le temps file, et que on vous recommande d'aller voir Taang le plus tôt possible dans les salles de cinéma, dès demain, ce nouveau film de Wang Bing.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Poursuivons cette dispute cinéma du mardi soir avec un film sorti mercredi dernier sur les écrans, Le Teckel de Todd Solondz, prix du jury au dernier festival de Deauville, film dont le dossier de presse nous indique, pour tout synopsis, c'est le portrait d'un Teckel et de tous ceux auxquels il apportera un bref instant de bonheur.
Heel! Damn it! Heel! Motherfucker! Heel! Heel, motherfucker! Heel, motherfucker!
A dog is not human. It's an animal. Nature doesn't care about them. It's sad but true. We're a dog's only friend.
Hey, wiener dog. She looks like you.
Thanks.
I'm going to Ohio tomorrow. You want to come along?
What's in Ohio?
Crystal meth.
Okay. Nana!
This is Fantasy.
Hey.
Fantasy is an artist.
Nana used to do some painting.
I pose nude and spread my legs.
It's cool.
You need to exercise.
I walk my dog.
Exercise.
I can't.
You gotta have a what if.
What if you taught script writing at a film school and had no talent?
Wiener dog, wiener dog.
I think it's really great that you got a new dog. What's its name?
Cancer.
Why would you name it that?
It felt right.
Le Teckel de Todd Solondz, sorti mercredi dernier. Charlotte Garçon.
Oui, bah, en fait, il a pas beaucoup changé, Todd Solondz, au cours des décennies. Ces films, à chaque fois, je les trouve ratés. Donc, une fois de plus, je le trouve raté. À chaque fois, il s'agit...
C'est une forme de constance.
Oui, de canaliser sa misanthropie autour du thème de l'innocence écrabouillée. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, qu'il s'agisse d'enfants, qu'il s'agisse de marginaux, de gens qui sont pas conformes physiquement, etc. Et finalement, le chien lui-même, qui est quand même un petit peu un ch'tic, comme dit l'un des personnages du film, qui est donc professeur à l'université, professeur de cinéma, et qui utilise ce mot pour parler de gimmick dans les scénarios. Et il me semble que là, bah, voilà, c'est un dispositif qui relie les différents sketchs du film avec ce chien, mais le film n'est pas centré autour du chien. Sauf à croire, et là malheureusement je le crois, que c'est une sorte de pastiche de Au hasard Balthazar de Robert Bresson, hein. Mais vraiment, c'est-à-dire que le problème, si vous voulez, c'est que j'ai l'impression que Todd Solondz est un étudiant de cinéma perpétuel. Dans le film, tout le monde est satirisé, y compris, je pense, lui, c'est-à-dire qu'il y a la misanthropie va jusqu'à la haine de soi, il me semble.
C'est la moindre des choses.
J'allais dire, voilà, pourquoi pas. Mais on a notamment un personnage d'étudiant new-yorkais absolument caricatural qui veut faire un film sur la question du gender, voilà, et qui est habillé d'une certaine façon très très typée, et d'autre part un personnage donc de vieux professeur à la ramasse qui a échoué à Hollywood et qui donc enseigne le cinéma à New York comme il se doit, comme d'ailleurs Todd Solondz lui-même. Et il me semble que Todd Solondz est tout cela en même temps, mais le problème c'est que de même qu'il y a tous ces personnages qui sont un petit peu lui, j'ai jamais l'impression dans ces films qu'il y a que tout ça soit rassemblé à un moment. Et j'ai l'impression qu'on a donc à chaque fois un film en kit. Alors ici en kit parce qu'il y a quatre histoires qui n'ont pas vraiment de points communs, mais aussi en kit parce que les choses sont diffractées dans les personnages et que du coup manque pour moi pour créer du rire, parce que quand même l'humour est visé dans presque toutes les séquences, il manque presque une humanité, une unicité de l'humain en fait. Et je me dis que puisqu'il s'inscrit quand même dans un comique juif new-yorkais, il lui manque, j'allais dire, le narcissisme d'un Woody Allen ou même d'un Larry David, puisque le Curb Your Enthusiasm, la série,
votre série préférée,
ma préférée, n'échappe pas à la satire et est citée dans le film. Et il me semble que eux, aussi bien Woody Allen dans ses meilleurs moments que Larry David, qui est souvent dans ses meilleurs moments, réussissent dans cette veine du politiquement incorrect, là où lui échoue parce qu'il ne dit pas « je », quelque part. Parce que c'est pas assez expérimental, c'est pas assez avant-garde de dire « je ». Et du coup, tout est déconstruit, mais pour moi, il y a un côté étal quand je vois les scénettes qui s'enchaînent, et absolument pas de rire. Mais je pense que...
Que
d'autres peuvent rire devant le film.
Vous regardez Antoine
Guillot. Peut-être Antoine.
Allez, Antoine.
Eh bien, moi qui aime plutôt beaucoup le cinéma de Todd Solondz, j'ai été assez cohérent comme l'a été Charlotte Garçon. J'aime vraiment ce film qui est certainement un petit Todd Solondz, à mon sens, dans le sens où il est moins monstrueux qu'ont pu l'être des personnages précédents, où là, certains de ces personnages, souvenez-vous de Happiness et autres, allaient très loin dans l'horreur. Et en même temps, je trouve que c'est un film qui a une empathie profonde, précisément, envers ces personnages. Il me semble, pour moi, que Todd Solondz est dans chacun des personnages. Parce que ce qui relie ces personnages, effectivement, de manière un peu artificielle, par ce chien, mais qui a des beaux moments de plan qui en sont de l'insondable, précisément, vacuité du regard de ce chien, qui est comme un abîme d'idiotie qui passe dans ce film en n'exprimant rien, n'étant rien que cette longue saucisse qui marche. finalement, c'est le trajet de la vie. C'est-à-dire qu'on a, qu'est-ce qu'il raconte ce film, on est enfant, on est dressé pour être un bon petit adulte, on en souffre dès l'adolescence et la jeunesse, et puis après on a raté sa vie et on finit par mourir.
Ça, voilà. C'est la version de The Progress de Tino Segal,
c'est la version américaine du Ken Loach.
Est-ce que c'est de la misanthropie? Non, c'est du pessimisme, je crois. Enfin,
il y a du réalisme, dirait d'autres.
Une façon noire, et tous les pessimistes, on le sait, sont des grands réalistes, de voir le monde, mais très précisément au contraire. Moi, je trouve qu'il y a un regard très attendri de Todd Solondz sur ces personnages, dans leur névrose, dans leur souffrance, dans leur manière de faire à peu près n'importe quoi de leur vie, qui me touche énormément. Et puis il y a toujours chez Todd Solondz ce goût de l'acteur et sa façon d'utiliser Hélène Burstyn. Moi, ça, effectivement, ça me fait beaucoup rire.
Ça pourrait jouer.
Cette manière qu'elle a d'appeler son chien Cancer, par exemple. Je trouve que c'est des moments où, dans la noirceur du monde, on arrive encore à rire un peu sans ricaner. Et il me semble que Todd Solondz est finalement un gentil, et ça me surprend. Et c'est ce qui me surprend le plus quand je vois ce film, dont la photographie très belle, signée Ed Lachman, me réjouit également, y compris quand ce sont des travelling sur des matières fécales répandues par un chien.
Fin de la phrase qui ne finissait jamais.
le travelling dure quand même 1 minute 5.
Il est très beau.
Oui, travelling donc sur de la diarrhée.
Allez, Corinne Rondeau.
Musique classique, je crois d'ailleurs. Écoutez, pour résumer ce film, l'Amérique est une saucisse. Voilà.
Très bien. Générique.
Non,
fin,
je trouve. Alors, le film ne se tient pas sur la comment se suit ce chien d'un sketch à l'autre. Cependant, on a quand même les 4 âges, l'enfance. C'est super, il sort d'une leucémie. On a ensuite le jeune adulte qui va rencontrer en fait les seuls êtres qui l'accueillent avec son compagnon de route qu'elle a rencontré, qui sont des trisomiques et qui sont stérilisés. Donc on va leur laisser le chien. Et là, au milieu des deux premières vies, il y a l'entracte du film. Nous ne l'avons pas raconté, il y a un entracte.
On racontait pas tout.
Mais je dis, il y a un entracte. Voilà. Et puis ensuite, on reprend sur un troisième âge qui est le pré-retraité, le prof d'université de cinéma qui là va se servir du chien comme d'un instrument pour régler ses comptes. Et puis, effectivement, le chien qui est prénommé Cancer parce que c'est le nom approprié, dit-elle. Donc, en fait, c'est vraiment les 4 âges de la vie.
4 âges, même.
Les 4 âges. Oui, c'est mieux parce qu'il n'y a pas de S à 4. Vous m'aviez déjà fait la remarque.
Non, mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait,
non,
Corinne.
Pas toujours, mais je l'ai fait là, voilà.
Les 4 amis.
Les 4 amis, oui, ouais. Oui, oui.
Les 4 âges de la vie.
Donc, en fait, ce film, je me suis dit, s'il n'y a pas le chien, il est monstrueux. Parce qu'il est vraiment monstrueux, et je pense que c'est d'une méchanceté, mais atroce. Mais pas
aucun de vos trois qui a vu le même film.
Mais en revers, mais à son revers, c'est qu'en fait, il traite de la famille. C'est quand même, il y a plus de famille. Est-ce que ça veut dire, c'est quand même bien la famille? Enfin, c'est un problème.
Question,
quand même.
Point d'interrogation.
Non, mais à la fin, cette vieille dame qui est en train de, bon, ouais, elle est en fin de vie. Bah, sa nièce, je crois, ou sa petite fille, je sais pas, elle lui file de la thune, puisque les vieux n'ont rien d'autre à donner. Que de la thune, semble-t-il.
C'est la fille qui vient le réclamer, l'argent. Hein.
Oui, non, mais la manière empathique, justement, dont la grand-mère ou la tante, je ne sais pas, fait ce chèque, est quand même problématique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de dire l'Amérique est moribonde, les gens sont en train de cancer.
Elle peut encore faire des chèques.
Voilà, elle peut faire des chèques. Et en plus, c'est vous ne me reconnaissez pas, donc. Faut tout faire péter ou alors se mettre dans une marginalité. Et moi, j'ai trouvé le film, sous sa drôlerie, plutôt malodorant.
Charles Garçon.
Oui, en fait, moi, ce que je reproche, c'est justement ça, une forme de mollesse. C'est-à-dire que sous un côté frontal apparent, frontal au niveau vraiment visuel, et très graphique comme ça, de penser surtout la composition des plans et les couleurs, en réalité, je pense qu'il n'est pas assez radical. Alors, ni dans l'empathie. Je rappelle que Ed Lachman a notamment tourné Import-Export pour Ulrich Seidel. Mmh. Et voilà, je veux dire, Todd Solondz, c'est un peu l'Autrichien voilà, du cinéma indépendant new-yorkais. Et ben, il ne va pas assez loin dans l'empathie que Seidel révèle vraiment au cours d'un film.
Il n'y a pas d'empathie dans ce film.
Justement, il y a une mollesse, il y a une espèce de molle empathie. Et deuxièmement, il ne va pas assez loin dans une radicalité critique qui émerge dans la scène avec Julie Delpy en mère qui raconte le viol de la chienne par un chien errant appelé Mohamed. Et ça, c'est une très très bonne séquence d'anti-politiquement correct. Très drôle. Malheureusement, le film est très très étalé par rapport à aux quelques minutes de ce récit. Mais au contraire, je pense qu'il aurait dû être plus radical.
Bon, je vais peut-être aller le voir quand même. Vous m'intriguez à avoir des avis si différents les uns des autres. Je vais me rattraper en allant voir Le Teckel de Todd Solondz qui est actuellement à l'affiche.
Concluons cette émission avec le jeu de la dispute. Lucille Comeau, on rappelle d'abord le jeu d'hier soir.
Oui, la question était la suivante. En 1947, Bernard Buffet réalise sa première exposition. Où peut-on la visiter? Et la réponse est dans la galerie Les Impressions d'Art, une petite librairie rue des Écoles.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition de Méliès à la 3D, la machine cinéma, jusqu'au 29 janvier à la Cinémathèque française à Paris. Quelle est la question?
En 1925, Georges Méliès est ruiné et ne peut plus faire de film. Quel est son métier?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Corinne Rondeau, Charlotte Garçon, Lucille Comeau et Antoine Guillot. Information sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Merci à l'équipe qui prépare ces émissions. Virginie Le Duo, Flora Isidore, Josué Morel, Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Cédric Châtelus. Réalisation signée Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie de Sandra Dancorale et Harry Bellet. À notre affiche, un film, Le Mystère Jérôme Bosch, documentaire de José Luis López Liñares qui sort demain aussi sur les écrans. L'exposition Soulèvement par Georges Didi Huberman au musée du Jeu de Paume. Et puis nous évoquerons également une exposition de Théo Mercier à Marseille. Nous parlerons d'Eugène Delacroix. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.